La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Les producteurs de la planète du jazz vous prient de les excuser car leur studio est en travaux cette semaine et ils ne seront donc pas en mesure de présenter l'émission qui avait été initialement prévue. Mais nous avons pensé qu'un petit rappel ne serait pas superflu car beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas l'histoire de cette émission. Et nous nous sommes souvenus qu'à l'occasion de notre 1000e émission, il y a déjà pas mal de temps, nous avions diffusé une émission souvenir retraçant l'historique de la planète du jazz. Nous nous permettons donc ce soir, à titre de substitution, de vous proposer une rediffusion de cette 1000e émission, en quelque sorte historique. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, c'est la 1000e.
Peste.
C'est la 1000e fois que nous nous retrouvons devant un micro, enfin moi en tout cas. Toi, c'est un peu plus récent, tu es la jeunette de l'émission.
Oui, si on peut dire.
Et aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire, parce que nos auditeurs qui nous suivent depuis déjà pas mal de temps, ils ont le droit de savoir d'où on vient, finalement.
C'est une très longue histoire.
C'est une très longue histoire.
Mais elle a des côtés tout à fait amusants.
Tout commence à la réunion fondatrice de Radio Saint-Flour, fin février 87.
Et ce là, qui ne nous rajeunit pas.
Ça ne nous rajeunit pas. Et là, arrive vers moi un monsieur qui me demande si je suis le Laurent Verdoux qui écrit dans le bulletin de notre club de France. Je lui réponds oui. Il me dit je suis abonné.
Miracle.
Ah, je lui dis vous intéressez à la radio? Oui, j'ai fait de la radio. Et moi, j'en faisais aussi de la radio à l'époque. De temps en temps, j'étais sur Radio 15. Alors, on se met dans un coin de la salle après les délibérations, nominations et autres. Et on papote. Et finalement, on se dit on va faire une émission ensemble, puisqu'on sait faire et qu'on a les mêmes...
Les mêmes passions.
Exactement.
La même passion.
Alors, on a présenté le 7 mars suivant un projet à Radio Saint-Flour qui a été agréé. Et on nous a imposé une durée d'émission d'une vingtaine de minutes, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Et trois fois rien, c'est déjà quelque chose, hein, quand même, finalement. Une émission hebdomadaire qui aurait lieu le mardi en fin de matinée. Et nous avons été interviewés à ce sujet le 31 mars suivant pour présenter l'émission qui allait passer le 7 avril 87. T'es pas beau?
Oh.
Alors, on s'est mis au travail. Naturellement, nous avons choisi un indicatif. Et nous allons avoir le plaisir de vous faire entendre le tout premier indicatif de la planèse du jazz.
La planèse du jazz. Laurent Verdoux,
Lucien Jacquemont.
Après cet indicatif, qu'est-ce que vous avez passé comme premier morceau?
L'indicatif en question, c'est le Ring Them Bells de Lionel Hampton et de Claude Bolling. Nous avions droit à 4 morceaux par émission, hein, en 20 minutes.
Fallait choisir. Hein.
Ouais, et puis après, c'était la pub. Plus tard, nous avons eu droit un peu plus après la pub. Enfin là, on en était à 4. Et le tout premier, on s'est dit, il faut quand même donner la parole en tout premier, c'est symbolique, au roi du jazz, à Louis Armstrong lui-même. Comme nous arrivions tout juste à la radio et que nous nous sentions déjà chez nous dans ce domaine, nous avons choisi « That's my home ».
Ce qui veut dire « c'est chez moi ».
Sunset in the sky, flowers never die, babe. Friends don't pass you by.
But that's my home.
When the folks say how do you do, like they mean it too. Where mama's love is true, 'cause that's my home. Always welcome back, no matter where I roam. Home, home, just a little shack to me is home sweet home. Where the Swanee River flows, the
shady pine tree grows. I needn't say no more, 'cause that's my home.
Là, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Hein.
Tout à fait.
Et les autres disques, alors, c'était quoi ?
Eh bien, les trois autres, nous avions choisi d'être un petit peu divers. Et nous avons passé un blues par une jeune chanteuse de l'époque qui promettait et qui m'a pas mal déçu par la suite, d'ailleurs, je dois avouer, qui s'appelle Didi Bridgewater. Mais elle était vraiment très bien. Elle chantait Dr. Feelgood. Après, on a passé un disque de Slam Stewart qui s'appelait Slam's Bam. Et puis, pour donner quelque chose qui égaye l'auditeur, nous avons terminé par Chouchouch Boogie par
Louis Jordan, c'est ça.
Un disque qui fut fureur dans la surprise partie, en même temps que Caledonia et Saturday Night Fish Free, je me souviens de 45 tours, c'est génial.
Alors cette émission, eh bien, elle n'est pas réalisée à Radio Saint-Flour.
Non, nous avions pensé le faire comme ça, mais c'était compliqué. Très difficile, compliqué. Donc nous nous sommes rabattus sur notre propre studio.
Alors imaginez qu'à Saint-Flour, il y a un studio d'enregistrement tout en haut d'une maison, nous ne dirons pas laquelle,
ah
naturellement.
Non, top secret.
Top secret. Pour que vous imaginiez un petit peu, c'est un coin d'un grand espace totalement rempli de livres de jazz, de disques, de CD. Il y en a partout. Et puis au milieu de tout ça, il y a le petit studio d'enregistrement qui prend à peu près la place,
une petite salle de bain.
Une petite salle de bain, voilà.
À l'époque, l'équipement est plutôt rustique, hein, quand même. C'est pas ce que c'est devenu par la suite. On est encore à la bande magnétique et au ciseau, hein.
C'est ça. Il fallait faire ça à la bande magnétique et ensuite aller la porter à Radio Saint-Flour.
Exactement. Mais il fallait essayer de pas prendre de ciseaux pour réutiliser la bande, quand même. Donc, on progressait avec un Revox en 19 cm, en progressant par bond, je dirais. La musique, clac, on arrête. 3, 2, 1, clic, on lance, on parle. On arrête, pouf, et ainsi de suite. Et ça a fonctionné comme ça pendant assez longtemps. Alors, l'émission passait le mardi à 11h30. Et puis à la rentrée 87, en septembre, elle a été décalée à 13h. Et elle a été portée une demi-heure, mais avec une pause pub à la 20e minute. Donc il fallait qu'on se débrouille pour que
ça soit dans les temps.
Précis et dans les temps. Et après la pause pub, on avait encore le droit de passer un petit quelque chose. Et puis, on a quand même réfléchi un peu à ce qu'on allait faire, parce qu'il ne s'agissait pas de balancer de la musique en vrac comme ça. Fallait un thème.
Et là, vous avez eu une très très bonne idée, puisqu'au fond, vous arriviez sur un terrain vierge, puisque personne n'avait fait d'émission de jazz dans le coin. Votre idée ?
C'était un feuilleton, et ce feuilleton, c'était en toute simplicité l'histoire du jazz lui-même.
Et ça va durer ?
Ça va durer longtemps, puisque le nombre d'épisodes a été astronomique.
320.
Nous avons fait l'histoire du jazz, en commençant par le gospel et le blues d'ailleurs, en 320 épisodes. Voilà le début de l'émission en question, avec le premier morceau de musique qui va avec. C'est ce qui commence en fait la partie gospel, qui va prendre 13 épisodes. Et le premier morceau sur le sujet, c'est
C'est la rentrée des classes. À partir d'aujourd'hui, nous allons être didactiques et nous allons entreprendre de vous narrer, comme on dit là-bas, l'histoire du jazz.
À partir d'aujourd'hui, nous vous invitons à suivre avec nous cette histoire du jazz depuis le départ, les racines africaines, jusqu'à nos jours.
Ça prendra le temps que ça prendra. On y arrivera et on commence tout de suite.
Et pour une plus grande compréhension, d'ailleurs des rythmes que l'on retrouve constamment dans le jazz et qui en constituent le fondement, voici quelques échantillons à ce sujet enregistrés sur place en 1950 en Afrique occidentale.
Nous attirons bien l'attention de nos auditeurs sur la variété et la richesse des timbres qu'ils vont entendre, qui proviennent de l'emploi d'accessoires ou d'instruments comme clochettes, trompes, tambours, calebasses ou balafons.
D'ailleurs, le balafon, il est bon de le signaler, était l'ancêtre du xylophone, lui-même celui du vibraphone actuel. Tout ceci scandait bien souvent par des chants et claquements de mains.
On va faire un peu les ethnologues, mais il faut commencer par le commencement.
C'était un extrait de France Culture par Schnock et Schnook.
Oui, merci de cette mise en boîte. C'est vrai qu'on a pris les choses très au sérieux, puis peu à peu, quand même, ça s'est détendu. Alors voici, pour illustrer ces propos, parce qu'on est quand même passé à de la musique jazz, tiré toujours de la partie histoire du gospel, voici un morceau de Rosetta Tharpe, et ce morceau s'appelle...
Deux petits poissons et cinq morceaux de pain.
Naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de l'histoire de la multiplication des pains et ne parlons pas de la finale de rugby de dimanche.
La traduction, qui est très belle. Gloire à Dieu, alléluia, une foule était venue au désert pour entendre la parole du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils eurent entendu la parole du Seigneur, ils eurent faim et voulurent manger. Il n'y avait que deux petits poissons et ses cinq pains. Le Seigneur se leva et appela ses disciples, leur fit apporter les pains ainsi que les poissons. Et leur fit exécuter une petite idée qu'il avait dans sa tête à propos de ces deux petits poissons et de ces cinq pains. Vous avez entendu, si nous nous aimions tous les uns les autres, le monde serait alors rassasié par seulement deux petits poissons et cinq pains.
Voici toute l'histoire chantée par Rosetta Tharpe.
A crowd of people went out in the desert to listen to what the good Lord said. All day long they heard the good Lord's word. Then they got hungry and had to be fed on only two little fishes and five loaves of bread. The Lord's disciples began to get worried, and each of them had to scratch his head. But what could they do? 'Cause each one knew there was a big crowd that had to be fed. With only two little fishes and five loaves of bread, the good Lord stood up and told his disciples to bring him the loaves of bread instead. Bring the fishes by and let him try a little idea he had in his head about those two little fishes and five loaves of bread. Lots left over
when all had been fed on only two little fishes and five loaves of bread. Hear what I said. If we all loved one another, then the world would be fed on only two
Après le gospel, qu'est-ce que vous avez passé alors ?
Eh ben après les 13 épisodes de l'histoire du gospel, on a attaqué l'histoire du blues. L'histoire du blues, c'est pas 13, mais 40 épisodes que nous avons.
Oh là !
Et alors, comme tu vas voir, on a commencé notre affaire en ne reculant pas devant les travaux pratiques.
C'est une histoire toute bête qui commence comme ça. Le train 12 est en gare, et le train 10 est parti. Le train 12 est en gare, mais le train 10 est parti, lui. Me voilà tout seul maintenant, et je me demande de quel côté ma petite est partie. Sur le plan de la structure, il donne un événement. Le train 12 est en gare, mais le train 10 est parti. Après ça, il répète, pour bien insister dessus. C'est la forme primitive.
Hein. Oui, oui.
Il répète une deuxième fois la chose. Puis après ça, il conclut son propos en disant « Ben, maintenant, je ne sais plus où elle est passée. Hein. » Et la musique, au départ, c'est un simple support pour une histoire de ce genre. Autant de fois il va avoir quelque chose à dire, autant de fois il va refaire cette même suite. Il a décidé de raconter son histoire avec de la musique en la bémol, puisque ça lui convient. Hein. Alors, l'accord de la bémol, c'est ça. Et le voilà qui commence. La première fois qu'il parle de son sacré train, il le joue sur l'accord de la bémol. Le train 12 est en gare, et le train 10 est parti. Puis il va insister, et il change d'accord pour mieux insister. Le train 12 est en gare, oui, oui, et le train 10, ben, il est vraiment parti. Hein. Puis après, pour conclure son propos, il donne un troisième accord qui a une valeur de conclusion. Me voilà tout seul maintenant. Et je me demande de quel côté ma petite est partie. Et puis ainsi. Alors ça fait trois fois quatre mesures. À chaque propos correspond quatre mesures. Ça fait donc 12 mesures qu'on répète indéfiniment tant qu'on n'a pas fini de raconter son histoire. Mmh. Et en tempo, ça donne à peu près ça.
Number 12's in the station, and number 10's out on the road. Well, I'm all alone, wonder which way did my baby go. Well, that's a mean old train that carried my baby away.
Yes, I know how you do.
That's a mean old train.
Yeah.
That carried my baby away.
Oh,
but I'll just keep on waiting. She'll come back to me someday. Every night and every morning, I can hear that whistle blow. Every morning I can hear that whistle blow. I'm just sitting here thinking, do my baby need me anymore?
I feel for you, but I can't reach you.
Yes, I know. Look out, you girl.
Thank you.
Parfois, il y a des petits passages qui ne sont pas dans le feuilleton historique. Ah ben c'est sûr. Des occasions.
Mais bien sûr, on n'a pas fait que ça. On a saisi toutes les occasions possibles. Et même de temps en temps, on a fait l'émission sur les nouveautés. Et les occasions, bah, c'était par exemple la disparition de James Baldwin ou de Marguerite Yourcenar. On a fait des émissions spéciales là-dessus. Et 120 minutes, hein, c'était pas très facile. Hein. Regarde là, on en a pour une heure et je suis pas sûr qu'on va pas déborder. Toujours est-il que l'émission a avancé et puis un beau matin, on s'est aperçu
que ça faisait
depuis un an.
Un an, voilà.
C'était le 7 avril 88, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour commémorer l'événement.
Du Louis Armstrong, ça va de soi, puisque
évidemment.
La première émission, c'était Louis Armstrong. Ça a fait commencer par Louis Armstrong.
Eh bien voilà, on a marqué le coup avec un Louis Armstrong très célèbre.
C'est bon.
Et alors, on nous a fait un cadeau. Ce jour-là, on nous a dit, votre émission est très bien, on va donc la rediffuser à une autre heure, avec un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'on va prendre l'émission d'il y a un mois, et puis on va la rediffuser dans un autre créneau horaire. C'est vrai que le « c'est si bon » s'impose absolument dans cette circonstance-là, parce que finalement, ces émissions, c'était très bon.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Du blues, mais
il y aura celle du jazz, purement et simplement. Tout à l'heure, j'ai dit 40 épisodes, je me trompais. Le blues, c'était 30. Le blues, c'était 30. Mmh. Alors, ces 30 épisodes-là, on passe au jazz, exactement. C'est le moment de parler de notre outil de travail, car notre outil de travail, c'est ce que nous possédons comme fond musical.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a, expliqué un peu comment était notre petit studio. Il faut savoir qu'il y avait aussi le... non pas un studio, mais une accumulation de choses chez Lucien Jacquemont, qui était un collectionneur enragé de tout ce qu'il entendait à la radio.
Il piquait tout. Et puis Ketou, après le Zeltri, on a travaillé avec presque 1000 cassettes de Jacques Mont.
Il connaissait tout ce qu'il y avait dans ces cassettes.
Absolument. C'était tout à fait... il savait. C'est absolument impossible maintenant de savoir ce qu'il y a dedans, mais lui, il savait. Lui, il savait. Et parallèlement à ça, moi, c'était plutôt les disques et les CD, également des milliers. Donc, avec tout ça, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On a calculé un jour qu'on pouvait faire plus de 60 ans d'émissions.
Il reste de quoi faire.
Et donc, en même temps qu'on attaque cette histoire du jazz, à proprement parler, on change d'indicatif. Alors, Lucien a dégoté un Duke Ellington qui s'appelle « My Darling Clementine ». Ça fait un très bel indicatif, vous allez voir.
Planète du jazz. Lucien Jacquemont, bonjour.
Laurent Verdot, bonjour.
Et puis, vient un jour où il y a la centième.
Et oui, ce qui est assez étonnant, c'est que le jour de la centième, ce qui était donc le 30 mars 89, on ne s'est pas du tout imaginé qu'on allait en faire 10 fois plus. On n'y pensait pas. On se voyait toutes les semaines ou tous les 15 jours pour en faire 2 d'un coup. Et puis, on laissait la vie aller comme ça. On ne pensait pas du tout qu'on arriverait à 1000 et qu'un jour, on serait vieux. Et au moment de cette fameuse centième, l'histoire du jazz en était à son 66e épisode. C'est-à-dire qu'on avait quand même fait 34 émissions autres sur des sujets variés, ce qui est quand même pas si mal.
Et vous en étiez à 1927.
On était 1927, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à écouter. Et on en était seulement 1927 et au fameux Hot Seven de Louis Armstrong et un disque qui fit date, qui s'appelait
Willie the Whipper.
Thank you.
Vous aviez une façon un peu plus particulière de fonctionner.
Oui, parce qu'en fait, c'est une émission qui ne s'arrêtait jamais. Actuellement, à Radio Margeride, l'été, pour nous, c'est une pause. On arrête à peu près début juillet.
Deux
on
mois,
reprend
oui.
à la rentrée scolaire. D'ailleurs, c'est encore ce qu'on va faire cette année, je vous préviens tout de suite. Hein. Mais à l'époque, on ne s'arrêtait jamais. C'était assez facile parce que l'émission ne faisait que 20 minutes. Et un peu plus après la pause pub. On calculait 8 ou 9 semaines, on préparait 8 ou 9 émissions d'avance. Et alors là, des émissions qui n'étaient plus le feuilleton, qui n'étaient plus les commémorations, c'était grand public. On passait des extraits de concerts ou des choses pour la danse, etc. C'était une émission de jazz plutôt tout public. Et puis les choses sont gâtées, figure-toi.
Eh ben oui.
En fait, beaucoup de stations, n'arrivant pas à assurer le quotidien de leurs émissions, décrochaient la plupart du temps sur des radios commerciales. Puis un beau jour, les radios leur ont dit « Écoutez, arrêtez de vous emmerder à faire des petits bidules de 2 heures par jour et des flash infos qui ne valent pas les nôtres. Franchisez-vous avec nous et puis nous, on s'occupe du reste. » Donc, ce sont juste des radios purement commerciales.
Voilà, et ce sera tellement plus facile.
Exactement, donc il y a juste les pubs locales qui viennent en plus, puis c'est tout. Nous avons pensé que notre place était ailleurs. Alors, on a pensé à un autre endroit et nous sommes allés frapper à la porte de Radio Margeride. Et je dois dire qu'on y a été très bien reçus. C'était début 90, je me souviens, et on est arrivé à poursuivre l'émission d'une semaine sur l'autre.
Ah, c'est extraordinaire, ça.
Ça a même sauté une semaine. Voilà.
Et il faut reconnaître l'ouverture d'esprit de Radio Margeride.
Ah, c'est vrai.
Qui a vu des gens intéressants et qui a dit « Venez ».
Nous avons juste mis un encart dans la montagne, pour quand même qu'on sache où nous écouter. Et on a sauté d'une station à l'autre. D'un coup d'un seul.
Vous n'avez jamais regretté cet accueil?
Ah non, jamais. Non, non.
C'était une forme de famille.
C'était tout à fait ça. Tout à fait ça. Alors nous avons été pris comme nous étions, avec notre émission, notre concept, sans coupure publicitaire. Alors là, c'était vraiment
quelle le pied, joie. Hein,
et dans un créneau bien meilleur qui était le mercredi à 19h. Je te ferai remarquer qu'actuellement, on a presque le même. On est mercredi à 17h30, c'est pas
loin. Oui, oui. C'est pas loin.
Je me souviens que c'était la 143e émission, mais il a fallu qu'on change toute notre manière de travailler pour la faire. En fait, Radio Margeride ne fonctionnait qu'avec des cassettes. Au lieu de faire une bande magnétique qui ne pouvait pas lire, on a fonctionné sur cassette.
Alors bien sûr, vous avez changé d'indicatif.
Non, non, c'était une continuité. Nous étions la planète du jazz qui passait simplement d'un point à un autre. Il n'y a aucune raison de changer d'indicatif.
Et hein. Vous étiez en Auvergne.
On était en Auvergne.
Ça ne changeait pas grand-chose.
Absolument, on était chez nous partout. Et voilà. Naturellement, il a fallu tout de suite s'expliquer avec les auditeurs, parce que le mot jazz véhicule tellement de choses mortellement ennuyeuses qu'il fallait quand même mettre les pendules à l'heure tout de suite. Donc, nous avons expliqué notre position, et pour l'illustrer, nous avons passé le morceau suivant, qui est le premier morceau de la planète du jazz diffusé sur
Radio Margeride. De Sidney Bechet, c'était Original Dixieland One Step. Thank you. C'était joyeux, comme le plaisir que vous avez eu à aller là-bas.
Exactement. Moi, je pense qu'il ne faut pas garder son drapeau dans sa poche et qu'il faut annoncer la couleur. Nous, nous sommes pour la musique festive.
Tout à fait.
Bon. D'ailleurs, ça n'a jamais changé. Ou pour la musique d'émotion. Et puis, on veut que ça swing. Voilà. Bon. Et ça, c'était comme ça depuis le début.
Et qu'on puisse danser dessus.
Alors, à Radio Marguerite, les choses se sont parfaitement bien passées. C'était rodé comme une pendule. Et comme ça, nous avons paisiblement, alors vraiment paisiblement, vécu pendant 3 ans. Et un beau jour...
Comme un coup de tonnerre, la radio s'est arrêtée.
Un coup préadministratif nous est tombé dessus. J'ai jamais compris pourquoi exactement. Il y a une loi, je sais pas. En tout cas, la station Radio Marguerite a été interdite d'antenne. Et tout s'est arrêté, y compris notre émission, naturellement, qui en était quand même à la 263e.
Il y avait eu plein de radios libres qui s'étaient créées. Et le gouvernement avait voulu mettre de l'ordre. Et malheureusement, des radios structurées, organisées, qui duraient depuis longtemps et qui étaient très implantées dans la population, eh ben, elles ont été victimes du fait qu'on a voulu absolument supprimer
elles
beaucoup de toutes petites émissions.
Un arbitraire scandaleux qui, comme d'habitude, est tombé, telle la gare de Paris-Bercy, dont on parle beaucoup, sur le Massif central.
Hein. Voilà.
Pour ça, j'ai remarqué une chose, c'est que, vu de Paris, on ne loupe jamais. Hein. Passons, nous allons nous aigrir en pure perte. Donc on s'est arrêté. Eh bien, là, Lucien et moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On voulait continuer. On s'est dit, on est tellement bien à Radio Marguerite, on était tellement bien reçus, on est tellement en bon terme avec eux, on va simplement attendre que ça reparte. On va croire que ça va repartir. Et on a attendu, on a tout arrêté, et on a attendu.
Combien de temps ?
28 mois.
Vous avez été patient, là, quand même.
On a été patient. Et c'était d'autant plus dommage que, comme l'indicatif que nous avions apporté avec nous commençait à vieillir un peu, Lucien avait dégoté un solo de trombone de Jimmy Archer qui venait remplacer le solo de trombone de Quentin Jackson. Alors voilà quel était, à l'époque, l'indicatif de la planète du jazz avant cette funeste coupure.
La planète du jazz. Lucien Jacquemont, Laurent Verdot.
C'était My Blue Heaven.
Ah ben dis donc, bravo.
N'est-ce pas ?
Quelle culture !
N'est-ce pas ?
Mais quelle culture ! Oui, c'est un solo de Jimmy Archer, le tromboniste, dans My Blue Heaven. On était tellement serein et détendu, ça s'entend. Ça s'entend, on est totalement...
Les deux pieds dans les chaussons.
Le bonheur était dans le pré et le morceau s'appelle Mon ciel bleu. Pas mal, hein ?
Pas mal.
Et là-dessus, le coup près tombe. Bon. Et en novembre 94, la station reprend, l'émission aussi, naturellement.
Évidemment.
Et le feuilleton, pareil. L'histoire du jazz, nous ne l'avions pas oubliée. Nous l'avons poursuivie comme si elle s'était arrêtée avant-hier. Toujours en l'entremêlant de spéciales, de concerts ou de nouveautés. Mais alors là, entre-temps, j'avais découvert un disque de Cat Anderson qui a été notre grand ami de jeunes amateurs. C'était un trompettiste fabuleux. Il adorait Louis Armstrong. Et un jour, sur un disque, nous avons découvert un concert où il jouait l'indicatif de Louis Armstrong, qui s'appelle...
Sleepy Time.
Pour être plus complet, When It's Sleepy Time, Down South. Et ça, ça nous a tellement tapé dans l'oreille qu'on s'est dit, on revient après 28 mois d'absence, on va faire ça avec un nouvel indicatif, et ce sera ce morceau-là.
Vous êtes sur la planète du jazz. Lucien Jacquemont, bonjour.
Laurent Verdeau, bonjour.
Votre hebdo de jazz.
Bel indicatif, hein.
Ah, magnifique. Magnifique, ça, on s'en est pas lassé. C'est pour ça qu'il est un peu long, on a un peu fait durer le plaisir, hein, quand même, tu vois.
Mais pour une radio, c'est pas simple de reprendre après 28 mois d'interruption. Et là, va y avoir des difficultés, hein.
Il y a eu beaucoup de difficultés, et en particulier un manque de rigueur considérable. Et nous, nous étions très exigeants, en fait, parce que nous faisions des choses bien ciblées, bien montées. Et ce qu'on attendait, c'était de la ponctualité. Simplement.
Et certains jeunes animateurs de cette époque-là n'ont pas compris que c'était sérieux.
Oui.
Parfois, l'émission passait, d'autres fois, elle ne passait pas.
Oui, c'était
parfois, elle ne passait pas d'affilée.
Exactement. Et puis, l'été 95, on avait préparé 8 émissions d'avance et elles ne sont pas passées. À la rentrée, nous sommes allés l'oreille basse voir Jacques Viala en lui disant « Monsieur Viala, on
qui n'y était pour pas grand-chose, le pauvre, hein.
Et je dois dire que c'est certainement pas un reproche qu'on pourrait faire à l'équipe actuelle. Parce que justement, depuis que nous sommes revenus à De Margeride, nous sommes absolument
enchantés de la ponctualité, de l'état d'esprit qui y règne.
Et du professionnalisme.
Et du professionnalisme, absolument.
Là, il n'y a pas du tout le même genre de phénomène. Et comme à l'époque, l'émission commençait à être un petit peu connue, Jordan FM nous a tout de suite ouvert les bras. Alors là, techniquement, c'était tout à fait différent.
Encore.
Cette fois-ci, ça se passait sur mini-disque. Donc, nous enregistrions notre émission sur mini-disque. Et après ça...
Vous les envoyez par la poste.
Non. On remixait tout ce qu'on avait fait. C'était déjà un peu comme on commence à faire maintenant. Sur un autre mini-disque. Et celui-là, on l'envoyait par la poste. Il y a des enveloppes pré-timbrées, etc. Et ça marchait très bien. Et ça a marché très bien et très longtemps.
Combien de temps ?
9 ans.
9 ans.
On est resté 9 ans à Radio Jordan. On en a profité, on avait toujours une demi-heure. On a essayé vers la fin d'avoir une heure, on n'est absolument pas arrivé. Naturellement, Cat Anderson, on ne pouvait pas s'en séparer, donc on a conservé notre indicatif si brillant.
Et puis ça faisait une continuité.
Exactement, on a changé beaucoup plus tard, mais toujours à Radio Jordan, et pour tout vous dire, c'est celui que vous entendez encore maintenant. Naturellement, on a fini par arriver au bout de notre histoire du jazz en 320 épisodes, et il fallait la relayer par autre chose du même tonneau. Nous avons donc décidé de nous consacrer à un nouveau feuilleton qui fut...
L'histoire du jazz en France.
Exactement. Ça a pris 100 épisodes et malheureusement, Lucien n'a pas pu terminer cette série-là, comme on va vous l'expliquer un peu plus tard. Je ne résiste pas à vous passer la présentation et le premier morceau de ce feuilleton de jazz en France. Là, on en était à la préhistoire et à la guerre de 14.
On peut avoir une vague idée de ce qui est... de ce qui est apparu en premier. Parce que, tu sais, les historiens de jazz, quand ils parlent du jazz en France, avant 1927-28, ils ne savent pas grand-chose. Mais nous allons, nous, aller beaucoup plus loin.
Nous remontons directement à la source.
Absolument. Nous allons écouter un des tout premiers orchestres américains qui ait mis le pied en France et qui est enregistré à Paris, s'il vous plaît. Et comme il y avait cet aspect caricatural, les bruits incongrus, etc., il y avait d'autodérision, ils s'étaient appelés eux-mêmes le Jazz Band des Ferrailleurs.
The Scrap Iron Jazz Band.
Et alors, le premier morceau qu'on va entendre montre également une certaine dose d'humour, puisqu'il s'agit d'un titre qui s'appelle « Les volontaires du ragtime ont maintenant fini la guerre ».
Et nous sommes en 1919.
Et nous sommes en mars 1919. Thank you.
19 ans et un beau jour, le 9 juillet 2004, une lettre de la station a informé tous les producteurs des émissions à thème que l'orientation de la station la dirigeant vers le commercial, leurs émissions étaient toutes supprimées. Jazz, musique populaire française, rhythm and blues, occitan et même rap, et puis d'autres, parce qu'il y avait beaucoup de producteurs qui avaient une grande connaissance et des émissions très intéressantes dans cette station, qui étaient très écoutées. Là, tout le monde s'est fait jeter d'un trait de plume, et je peux te dire que la lettre ne disait ni au revoir, ni merci.
Alors c'est très intéressant comme phénomène social, parce qu'au fond, toutes les émissions qui s'adressaient à un public qui était personnalisé ont disparu. Parce que quand on veut faire de l'argent, quand on veut faire de la grosse cavalerie, on ne peut plus faire du personnel.
Non.
Donc finalement, c'est ce qui s'était passé un peu des années avant avec Radio Saint-Flour.
Exactement.
Et là, on veut faire de l'argent, on fait de la grosse cavalerie. Tout ce qui est intéressant, particulier, personnel, individuel, doit disparaître au profit de la grande masse.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je peux ajouter que cette station telle qu'on l'a connue n'existe plus non plus.
Et ben voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu de la chance parce que ça s'est passé le 9 juillet. Donc, on était au seuil de l'été. On avait, jusqu'à la rentrée scolaire, le temps de se retourner avec Lucien. On a beaucoup réfléchi. On a pensé arrêter. Et puis, on s'est dit, non, on ne va pas arrêter ça. D'abord, on a encore des tas de choses à dire et à faire entendre. On va retourner voir M. Viala. Et on est retourné voir Jacques Viala, qui nous a reçus bien gentiment, tout en nous rappelant que 9 ans auparavant, on l'avait passablement vexé.
Ce qui n'est pas faux.
Voilà, mais comme il a un heureux caractère, il nous a expliqué que quand même l'esprit de la station avait pas mal changé, que les choses étaient maintenant au carré, que tout fonctionnait normalement et que nos exigences seraient satisfaites. Alors naturellement, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a dit, Monsieur Viala, nous ce qu'on veut maintenant c'est faire une émission d'une heure. Eh bien il nous a accordé une émission d'une heure. Et là quand même on a compris deux choses. Premièrement que c'était bien plus agréable à faire et deuxièmement que c'était énormément de travail en plus.
Oui, c'est vrai, cette émission va passer à une heure et Jacques Mont, il a quand même 80 ans à ce moment-là.
Il a passé 80 ans et il se déplace difficilement, donc il faut qu'on change complètement notre façon de travailler. Il ne vient plus au studio.
Encore une fois.
Et une fois de plus.
Il ne peut plus monter dans le bureau où il y a toutes ces installations.
Exactement.
Il faut donc que toi, Laurent, tu ailles chez lui, enregistrer et revenir.
Alors, qu'est-ce que je fais ?
Et mixer.
Je prends les disques qu'on va passer, on les écoute. Après ça, on enregistre la parole, morceau après morceau, mais d'un seul coup, sur un mini-disque. Après, je reviens et je mixe tout ça sur un CD. Parce qu'entre-temps, on s'est quand même équipé, une table de mixage, enfin, on est vraiment bien équipé. Mais on n'est pas encore formatisé pour le son. Et là, le CD, eh bien, il est livré chaque semaine à Radio Margeride, quel que temps qu'il fasse.
On y va en voiture et on le livre, pour être sûr.
Quelquefois, on finit à pied. Quelque temps qu'il fasse, j'insiste, parce que le Pony Express n'aurait quand même pas mieux fait. Je me souviens d'après-midi d'hiver où ça a été assez épique. Et nous n'avons plus quitté Radio Margeride, retrouvé à la rentrée 2004 et inauguré par une émission en direct au studio. Là, nous avons de nouveau annoncé la couleur et passé, entre autres musiques, le morceau suivant, qui s'appelle « Liza ».
Qu'est-ce que c'est que cet orchestre ?
Ben, cet orchestre, c'est un orchestre français, c'est un enregistrement qui était à l'époque assez récent. Ça s'appelle le Paris Swing Orchestra. D'ailleurs, on a passé un autre morceau de cet orchestre il n'y a pas très longtemps. Alors, nous avions pris le pli et nous étions de nouveau confortablement installés à Radio Margeride. Mais la santé de Lucien a commencé à décliner fin 2006 et il a été hospitalisé. J'ai attendu qu'il sorte, mais j'ai attendu pendant 2 mois et il est toujours pas sorti. Alors, je suis allé le voir avec Pascal et je lui ai dit, je peux pas continuer à faire une émission tout seul parce que je m'en sors pas. Je suis incapable, moi, de faire une émission tout seul. Donc, il faut que j'aie de nouveau quelqu'un qui puisse faire l'émission avec moi et peut-être on pourrait demander à Pascal. Et Lucien nous a dit qu'il était d'accord pour que Pascal le remplace provisoirement jusqu'à ce qu'il puisse revenir.
Alors, bien sûr, hein, j'avais pas du tout la culture de Lucien.
Mais si.
Je connaissais bien le jazz, mais pas à fond comme lui. Mais c'est vrai que je m'y intéressais. Et puis, dans mon idée, c'était que momentané.
D'ailleurs, ça a été pas très long, cette fois-là. Je ne résiste pas à faire écouter la première apparition sur les ondes
oh là là.
De la planète du jazz et à souligner que, contrairement à ce que tu essayes de nous faire croire, tu connais très bien ton affaire. Voici, le 24 janvier 2007, les premiers pas de Madame Pascal dans la 821e planète du jazz. Bonsoir à tous. Eh bien, comme vous avez pu le constater, notre émission du jour va être consacrée à Fats Waller, qu'on vient d'entendre au piano. Ça, à la demande de mon invité, parce que, comme notre pauvre Lucien est toujours sur son lit de douleur à convalescer, il m'a dit, écoute, au lieu de passer des concerts, on va finir par se demander à quoi on sert, il vaut mieux que tu me remplaces provisoirement par un interlocuteur. Alors, j'ai choisi une interlocutrice, et elle va vous dire bonjour, elle s'appelle Pascal.
Eh bien, bonjour. Je suis très contente d'être invitée. Je suis tout à fait d'accord pour suppléer de mes tout petits moyens Lucien, et j'entendrai avec grand plaisir du jazz, mais je suis pas une spécialiste.
Voilà, non, mais on n'a pas besoin de spécialiste de jazz. Le jazz, c'est la musique de tout le monde, on ne le dira jamais assez, donc il n'y a pas de problème.
Fats Waller, pour moi, c'est peut-être la première fois que je crois que c'est le premier disque de jazz que j'ai entendu. C'était Fats Waller, et comme il a une façon de jouer à la limite un peu classique, et moi qui avais une formation classique au départ, ça m'a énormément plu, parce que c'était classique et c'était très gai.
Alors, cette émission-là était une émission sur Fats Waller avec des morceaux de ton choix, et nous avons continué sur Fats pendant quelques temps en espérant que Lucien allait revenir. Il venait toujours pas, donc on a entamé un vaste cycle sur Sidney Bechet.
Que j'aimais énormément, donc j'étais une invitée très privilégiée parce que on passait des choses que je connaissais bien.
Mais ça fait quelque chose comme 10 ou 12 émissions. Alors, en fin de compte, on a décidé d'en faire une copie que nous avons remise plus tard à un de nos bons amis qui s'appelle Guy de Maulle, qui est collectionneur, un des plus grands collectionneurs de jazz de la planète.
Et alors, le spécialiste, mais le plus pointu, il a tout sur Sidney Bechet. Alors,
nous avons reçu quelques félicitations circonstanciées de notre ami Guy de Maulle,
dont nous étions fiers.
Et nous étions assez fiers de nos émissions. Et puis Lucie est revenu. Il est revenu en avril et il a repris sa place sur les ondes de Radio Margeride. Et tout a recommencé comme avant. Sauf que la veille de l'enregistrement de la 900e émission,
il a fait une mauvaise chute. Et il est à nouveau hospitalisé.
Exactement. Ce jour-là, c'est vraiment la veille. J'en reçois un coup de fil avec une toute petite voix au bout du fil. Il avait 4 côtes cassées.
Bah oui, ça se comprend, hein.
Très fort.
Et du coup,
il m'expliquait ça. Donc du coup, nous avons recommencé le remplacement. Et en fait, par la suite, Lucien n'a pas retrouvé sa voix.
Trop fatigué.
Nous allons, par souci de lui rendre hommage, parce que la planète du jazz a quand même été pendant 20 ans Lucien Jacquemont.
Bien sûr.
Vous passez sa dernière intervention enregistrée. C'était le 96e épisode de Feuilleton, le jazz en France. Et comme vous voyez, c'est nous qui avons dû faire les 4 derniers, puisqu'il y en avait 100.
Amis du jazz, bonsoir. Après les pianistes la semaine dernière, nous avons maintenant 3 ténors impétueux à entendre.
Absolument, les ténors de français des années 90, ils sont 3 donc, comme tu disais. Nous entendrons successivement Serge Royerson, Michel Pastre et Karl Schlosser.
Voilà, 3 hommes remarquables.
Tout à fait. Alors le premier, Serge Royerson, qu'on va entendre là enregistré dans les années 90 avec un orchestre dont il est un des piliers, qui est l'orchestre de Boogie Woogie de Jean-Paul Amouroux, parce que Jean-Paul Amouroux, il fait du Boogie Woogie au piano tout seul.
Il fait que ça, d'ailleurs, est remarquablement.
Tout à fait. Oh, oui. Quelquefois avec une rythmique, quelquefois et seul, donc, et également avec un orchestre assez musclé. Là, on a choisi un morceau où on n'entend que Serge Royerson au ténor, mais...
Gilles Chevaucherie à la basse, François Fournet à la guitare et Michel Denis à la batterie. Ah oui, Michel. Alors Serge Royerson est un homme très, très dru dans la sonorité.
Hein. Très dru. C'est tout à fait amusant parce qu'il ne ressemble pas du tout à sa manière de jouer. C'est un malgache d'origine.
Oui.
Et lui, c'est un petit bonhomme tout souriant. Toujours souriant, toujours très... Le mot affable lui conviendrait très bien, Serge Royerson. Alors quand il prend son saxo, alors là c'est autre chose.
Ah oui, il joue méchant, il joue méchant.
Il joue méchant. Le morceau qui va nous être joué s'appelle « Le boogie de la rue des Poissonniers », Fishmonger Street Boogie. C'est un morceau, donc c'est un boogie sur tempo moyen vif, mais pas trop, un bon tempo dansant, tu vois. Parce que le jazz, c'est une musique de danse, hein, monsieur. Ça doit toujours se danser, donc...
Toujours.
Pas jouer trop vite, pas jouer trop lentement.
Ah, il faut évidemment un tempo parfait, oui, évidemment.
Amouroux commence au piano, et puis Royerson, peu à peu, commence à recoller à la musique. Et après, on l'entend dans son style qui est particulier. Fishmonger's Street Boogie. Thank you.
Finalement, Lucien est rentré chez lui en mars 2009, mais il n'avait plus assez de voix pour parler dans un micro. Alors il suivait l'émission et la commentait à chaque visite que je lui rendais.
Il a été de nouveau hospitalisé au printemps 2010 et il nous a quittés le 30 mars à l'âge de 86 ans. Il était né le 3 novembre 1923 et aimait rappeler que c'était au moment où King Oliver enregistrait les premiers grands disques de jazz.
Nous lui avons rendu hommage dès le lendemain, 31 mars, par une émission spéciale. C'était jour pour jour le 23e anniversaire de notre premier passage commun sur les ondes. Nous allons terminer cette émission sur son disque préféré. Peut-être serez-vous étonné, mais Lucien était d'une génération pour qui le jazz était une musique qui faisait partie de la vie, avec d'autres musiques qui étaient influencées par celle-ci, par exemple celle de Charles Trenet.
Et bien son disque préféré, justement, c'était de Charles Trenet, Verlaine.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil feuille morte.
Eh bien, je pense que vous avez eu la mémoire rafraîchie pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, ou que vous avez simplement, pour les autres, appris un peu d'où venait cette émission.
Qui est, au fond, une vraie aventure.
Absolument, c'est une vraie aventure.
Mais au fait, on a parlé beaucoup, beaucoup des indicatifs de début, et celui de fin, il n'a pas changé.
Non, eh bien, celui de fin, il n'a jamais changé. Ce soir, vous allez l'entendre servant pour la millième fois. Et puis, finalement, je pense qu'on n'en changera pas.
Quelle nouvelle!
Et après nous être abondamment retournés pendant une bonne heure, je pense qu'il faut regarder devant et avancer debout.
Et maintenant, droit vers le 2000e!
Thank you.
C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.